الاعتداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours en train de traiter Ghazwatu Khaybar. On a dit que c'est une grande bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de la trêve qu'il avait avec les Mécois pour punir la ville de Khaybar. Et cette ville-là était à l'origine d'une grande bataille entre les musulmans et les Mécois, quand Médine s'est fait encercler par 10 000 soldats. Qui était l'instigateur, qui a poussé à cette guerre-là? Ben, c'était les gens de Khaybar qui ont tout fait pour anéantir les musulmans. Alhamdulillah, Rabbi subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Allah a dispersé cette armée-là. Il n'y a pas eu de guerre entre les musulmans et les 10 000 hommes qui sont venus pour anéantir les musulmans. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cette trêve qu'il a eue maintenant avec les Mécois, une trêve décidée pour 10 ans, pour aller punir les Khaybars. 2 mois après, il n'a pas attendu. Ça, c'est quelque chose d'important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a un objectif, il ne le retarde pas. Hein. C'est pas demain et après demain. Non. Et on voit ça, subhanallah, durant 10 ans là, il a vécu 10 ans, et il a tout changé. Pourquoi? Parce que sallallahu alayhi wa sallam, il avait des objectifs à réaliser, et à chaque fois, il réalise ses objectifs, et il ne retarde pas les actions, sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux hypocrites de partir avec lui pour cette bataille-là. Parce que les hypocrites ont voulu partir avec les musulmans, parce qu'ils savent que les musulmans étaient en position de force,
et que Khaybar c'est une ville très 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 riche et qui aurait par la suite un butin très important.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي المشركين عنكم.
سبحانه وتعالى il dit وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Quand? Ben c'est donc Khaybar. Comme disent les savants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cette bataille a commencé, on sait que Khaybar est une ville très très des forteresses. On a dit qu'il y avait huit forteresses, huit petites villes, mais chaque ville elle est assiégée et bien armée et bien protégée. Donc il faut s'attaquer aux forteresses une par une. Et la première et la plus importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé donc de commencer par celle de Na'im, la forteresse de Na'im, Hismu Na'im, et il dit sallallahu alayhi wa sallam, demain je vais donner l'étendard des musulmans à un homme qu'Allah aime et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime. Et le lendemain matin, tous les compagnons étaient en train d'espérer d'être cette personne-là. Omar al-Khattab, radiallahu anhu, il disait que je regardais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dès que le prophète tourne la tête, je tourne la tête avec lui, comme ça il me voit, il me désigne comme le responsable. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il est où Ali? Amenez-moi Ali. Ya Rasulallah, Ali, il a une maladie, donc il n'arrive même pas à boire à cause du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, amenez-le. Il souffle dans ses yeux sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait une invocation, et Ali lui-même il dit comme si j'avais absolument rien. Il commence et après il lui donne un raya. Et on a dit Ali a tué Marhab. Marhab c'est le soldat le plus important de Na'im, de Hisn Na'im. C'était le chef et l'homme le plus fort. Personne. Ben Ali l'a tué du premier coup. Et ça a donné les soldats de Na'im, les soldats non musulmans, qui étaient complètement anéantis de voir que Ali a tué Marhab du premier coup. C'était quelque chose de... Kharaj al-Ba'daha, Yasir Akhu Marhab. Marhab, il avait un frère qui s'appelait Yasir. Il voulait venger son frère. Qala man yubaliz. فخرج إليه الزبير الزبير بن العوام فقالت صفية أمه يا رسول الله يقتل ابني قال بل ابنك يقتله فقتله الزبير. Donc الزبير بن العوام sa maman c'est qui? صفية, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الزبير c'était sa maman c'est خالت رسول الله عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'était le fils de sa tante directement, Zubayr ibn Awam. Quand elle a vu son fils sortir, Yasser c'était aussi un grand combattant, elle a eu peur, elle dit il va tuer mon fils. Il dit non, c'est ton fils qui va le tuer. Et Zubayr a tué Yasser. Yasser donc c'est un des responsables de la forteresse de Na'im, donc un juif, comme les autres. ودار القتال المرير حول حصن نعيم. Après la une grande bataille a commencé parce que il y a eu une attaque généralisée et après subhanallah a donné la victoire aux musulmans qui ont pris la première forteresse de Na'im. Et les musulmans sont rentrés à l'intérieur de la forteresse et ils ont gagné cette première manche de cette grande bataille. Et après vous avez le deuxième hisn, c'est As-Sa'ab ibn Mu'ad. Deuxième forteresse, elle s'appelle As-Sa'ab ibn Mu'ad. Les historiens disent que c'était pratiquement la même forteresse, très bien organisée, très bien protégée. Et donc les musulmans ont commencé à s'attaquer. Et le chef de cette deuxième partie, c'était Al-Hubab ibn al-Mundhir al-Ansari. Ali ibn Abi Talib, c'était le chef général de l'armée. Maintenant, Al-Hubab ibn al-Mundhir, c'est lui qui était à la tête de la deuxième expédition, on va dire, pour Hisn al-Sa'd. Al-Hubab ibn al-Mundir, je vous ai raconté son histoire. C'est ce Hubab-là qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Badr. Vous vous souvenez de la bataille de Badr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à un endroit. Al-Hubab, c'est un homme, c'est un stratège de guerre. Il a fait énormément de guerre. C'était un Médinois. Les Médinois sont connus par la guerre. Il y avait toujours un guerre. Donc il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: Ya Rasulallah, tu t'es installé ici. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné ou est-ce que c'est la tactique de la guerre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: non, c'est la tactique de la guerre. Je me suis dit: ici c'est bien, on est. Il dit: non, non, Ya Rasulallah, ne t'installe pas ici. Fais avancer l'armée musulmane. Et il lui a donné un conseil stratégique, tactique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exécuté l'ordre de Hubab ibn al-Mundir. Il a dit: allez, levez-vous et on va suivre le conseil de Hubab ibn al-Mundir. C'était un grand guerrier et quelqu'un qui a une stratégie. Al-Hubab ibn al-Mundir a assiégé 3 jours et 3 nuits la forteresse de As-Sa'd ibn Mu'adh. Et au bout de 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et a fait une invocation spéciale. Et subhanallah, grâce à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à la persévérance des compagnons qui n'ont pas lâché, Allah a permis l'acquisition de cette deuxième forteresse. Rawa ibn Ishaq, c'est un grand historien, il rapporte que Bani Sahm ibn Aslam ataw Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam faqalu laqad jahidna wa ma bi aydina min shay. فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا فغدا الناس ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ وما لخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. Donc c'était la forteresse qui contenait le plus de nourriture et le plus de stock, cette forteresse-là. Et donc, parce que les musulmans, beaucoup de musulmans avaient trop faim, ils n'avaient pas pour de quoi se nourrir, et donc ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où le prophète a levé les mains, il dit: Allahumma innaka qad arafta halam. Oh Allah, tu sais, tu connais leur situation mieux que nous. Ils n'ont aucune force pour eux. Et moi, je n'ai absolument rien à leur donner. Et Allah ouvre pour eux cette forteresse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse comme toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, après avoir fait l'invocation, il dit: maintenant, attaquez. Foncez. Et les musulmans ont fait Al-Hujoum, et a eu une guerre contre les musulmans et les juifs de cette forteresse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire avant le coucher du soleil. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur? Al-Manjaniqat. Al-Manjaniq, c'est quoi? C'est les catapultes pour pouvoir tirer. Ils ont trouvé à l'intérieur les catapultes pour tirer. Ils ont tiré plusieurs fois contre les musulmans. Ils les ont, à partir de ce moment-là, les musulmans ont appris l'utilisation des catapultes. Et dans l'avenir, parce que c'est ça, l'islam, c'est toujours quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille. Il dit: Al-hikmatu dallatu al-mu'min, anna wajadaha fa huwa ahaqqu an-nas biha. La sagesse, elle est ce que le musulman cherche. Là où il trouve la sagesse, ben, ça lui appartient. Ici, c'était quoi l'utilisation? C'était un outil, les catapultes, c'était un outil. Ben, les musulmans, à partir de Ghazwat Khayba, ben, ils ont compris comment marchent les catapultes. Maintenant, ils commencent à produire eux-mêmes pour l'avenir, parce qu'il y aura beaucoup d'autres guerres dans l'avenir des musulmans par la suite. وروى ابن إسحاق أنه كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير. parce qu'ils avaient tellement faim, beaucoup de soldats musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié des ânes. ils ont sacrifié des ânes, dhabahu al-hamir, al-hamir c'est les ânes, ils ont commencé à préparer pour les faire cuire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez, jetez tout ça, il est interdit pour les musulmans de manger la viande de al-hamir. Et de, aussi d'utiliser même les, le lait de l'hamir, c'est pas autorisé. C'est pour ça que certains savants interdisent aussi, par exemple, du savon fait à base de lait d'ânesse. On n'a pas le droit de l'utiliser. D'accord ? On n'a pas le droit de l'utiliser. Parfois, ici en France, ça se fait. Vous avez des, du savon qui est fait à la base de, des laits, du lait d'ânesse. Et donc, nous musulmans, on ne doit pas l'utiliser, on ne doit pas l'acheter. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Même si vous avez certains savants qui disent que ce n'est pas la viande, on peut utiliser le reste, mais la majorité des savants musulmans interdisent tout ce qui donc le lait, bien sûr la viande, ça c'est quelque chose qui est connu, la viande de, des ânes est interdite pour les musulmans. Ça reste un sujet de divers. Je parle de l'avis de la majorité des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vus préparer à manger, parce qu'ils n'avaient absolument rien, ben, il a dit non, ne mangez pas et jetez tout ce que vous avez préparé. Et ça, c'est des hadiths authentiques. Par la suite, il y avait Qal'at al-Zubayr, donc une autre forteresse qui s'appelle Qal'at al-Zubayr. Donc, les gens. Quand une forteresse est conquise par les musulmans, vous avez beaucoup de personnes qui vont quitter pour aller dans l'autre, pour s'abriter dans l'autre forteresse. Donc, les autres forteresses, ça contient plus de d'hommes et de chevaux et de munitions. Et donc, c'était aussi une grande forteresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté avec l'armée musulmane pendant 3 jours et 3 nuits. Pareil que حسن الصعب فجاء رجل من اليهود un homme de cette tribu juive est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam فقال يا ابا القاسم انك لو اقمت شهرا ما بال ان لهم شرابا وعيونا تحت الارض
même si tu restes ici un mois ils vont pas céder ils ont la nourriture ils ont beaucoup de nourriture et ils ont des puits creusés à l'intérieur, donc ils peuvent boire et manger, et même si tu restes un mois, tu n'auras pas cette forteresse. Donc, il lui dit que les puits étaient à l'extérieur de la forteresse, et qu'il profitait de la nuit pour sortir, s'abreuver, et prendre l'eau et rentrer. Et il lui dit donc, si tu coupes le lien, tu surveilles la nuit, ben, tu pourras donc les empêcher de boire de l'eau et ainsi tu auras la vie. Donc le soir, ils sont sortis pour aller chercher l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une brigade et donc il y a eu beaucoup de morts musulmans parce que les autres les ont combattus. Et ils ont eu donc la ville par la suite grâce à cette stratégie. Qal'at Ubay. Donc les musulmans ont eu Qal'at Ubay. Qal'at, je ne vais pas détailler toutes les Qal'at al-Nizar ou Qal'at la deuxième partie de Khaybar. Donc les musulmans ont eu cette bataille de Khaybar d'une manière très très rapide, deux semaines, et les musulmans ont eu cette bataille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ibn Abi al-Huqayb, les gens de cette ville-là, de Khaybar, ont envoyé un homme qui s'appelait Ibn Abi al-Huqayb, il a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, va lui parler, parce que c'était les dernières forteresses. قال نعم فنزل وصالحه على حقن دماء من فيهم من فصولهم من المقاتلة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la promesse de ne tuer personne si
cède
et qui donne la ville, vous ne tuez personne. Et puis, par contre, le prophète a exigé qu'ils sortent de Khaïba et qu'ils aillent
Khaïba.
Ils ne doivent pas prendre avec eux ni or ni argent et partir avec le minimum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait cette alliance ou ce contrat avec eux. Et après, Ibn Abi al-Huqayr, il y avait donc cette trêve-là, ou ce contrat-là entre les musulmans et Ibn Abi al-Huqayr, qui était un homme pervers. Donc, c'était un homme très très riche. Et en quittant la ville, il a pris avec lui, il a dissimulé énormément d'argent et énormément d'or avec lui pour les amener avec lui. قال ابن إسحاق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك قال نعم فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه فدفعه إلى الزبير فكان الزبير رضي الله عنه يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc cet homme-là qui était parmi les gens riches et qui cachait l'or et l'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'or et l'argent qu'il possédait. Et comme on a dit, Khaïbar c'était une ville qui était très riche parce que tous les juifs de Médine, qui étaient avant à Médine, quand l'islam a commencé par prendre le pouvoir, ils ont quitté Médine pour aller s'installer à Khaïbar. Et donc beaucoup, Khaïbar est devenu encore plus riche. Et pendant cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Safiya, la fille de Huyay ibn Akhtab. Donc Safiya faisait partie des captives de guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libérée et il a demandé sa main. Et avant de demander sa main, il l'a appelée à l'islam. Et donc elle est devenue musulmane et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Safiya bintou Huyay ibn Akhtab. Et c'est une musulmane qui est devenue une mère, notre mère Safiya. Quand on dit Safiya, on dit radiallahu anha parce que c'était la fille d'un grand rabbin juif, donc elle était juive, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé sa main, et il l'a appelée à l'islam, elle est devenue musulmane, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. D'ailleurs, elle l'a vue en rêve, elle raconte, elle-même un rêve qu'elle a réalisé, et le sens du rêve, c'est qu'elle a vu la lune descendre entre ses mains. Sa fille, quelques jours avant, elle a vu la lune descendre entre ses mains et elle a pris la lune entre ses mains. En réalité, cette lune-là, c'est ça désigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle raconte cette histoire à son mari, et son mari la frappe violemment.
Son oncle.
Hein?
Et son oncle.
Son oncle. Son oncle ou son mari? Ouais. C'est l'un des deux. En tout cas, il l'a frappé, il lui a dit: ah, tu as des ambitions, tu. Parce qu'il savait que la ville était assiégée, et elle a fait le rêve à ce moment-là. Sa fille, c'est une fille, c'est une femme qui habitait Médine. Et c'est quand les Juifs ont quitté Médine pour aller s'installer à Khaïbar, avec son père, Huyay ibn Akhtab, subhanallah, tu dis, « Yukhrijul hayya min al-mayyit » ou « Yukhrijul mayyit min al-hayy »
Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya. Safiya, on dit radiallahu anha, Umm al-Mu'minin, n'est-ce pas? Huyay, c'était l'ennemi numéro un du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a tout fait pour assiéger Médine. C'est lui qui est parti à la Mecque pour. C'est lui qui a donné de l'argent à Rabah, les tribus, pour avoir des hommes pour attaquer Médine. Il a tout fait. Subhanallah. Et Allah décide que sa propre fille devienne musulmane et elle devienne la mère des croyants. Sa fille, Umm al-Mu'minin, radiallahu anha, qui est devenue parmi les femmes les plus nobles. Parce que sa fille, c'est une femme qui était vraiment spirituellement, vraiment très très. Par rapport aux autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était d'une qualité, d'une très très grande qualité, même si toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient comme ça. Donc, le Bukhari rapporte que pendant cette bataille, il y a eu énormément de butins. C'est-à-dire les musulmans n'ont jamais eu autant d'or et d'argent et de butins de guerre que pendant cette bataille. Et c'est pour ça qu'Allah wa'adakum Allah maghanima kathiratan kathira. Allah lui-même dit dans le Coran maghanima kathira. Qala ibn Umar ma shabi'na hatta fatahna Khaybar. Il dit avant Khaybar, nous n'étions jamais rassasiés. On ne mangeait pas à notre faim. Mais quand on a conquis Khaybar, les musulmans sont devenus riches. وما رواه ابن عمر عن عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حتى صار لهم بخيبر مال ونخيل. Donc ce qui s'est passé, c'est que les muhajirin, les Mécois qui sont venus s'installer à Médine, les Médinois ont partagé avec eux leurs terres, n'est-ce pas? Mais quand Khaybar est devenu musulman, ben les muhajirin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné des terres à Khaybar. Et c'était parmi les meilleures terres et les meilleures palmeries. Et quand les musulmans sont revenus à Médine, après Khaybar, les Mécois ont rendu les terres que leurs frères médinois leur ont données auparavant. Parce que maintenant, alhamdoulilah, Allah leur a donné d'autres endroits. Et les musulmans, à chaque fois quand il y a une terre comme ça qui s'ouvre, ben les musulmans partent et s'installent. Beaucoup de sahabi, beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Khaybar est devenu musulman, beaucoup sont partis s'installer là-bas, définitivement. Et pendant cette période-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à Khaybar, ben, qui va devenir Ja'far. Ja'far radiallahu anhu. Ja'far, il est parti de la Mecque parce que les musulmans étaient persécutés à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à 80 familles musulmanes de quitter la Mecque pour aller s'installer en Abyssinie, Al-Habasha, Ard al-Habasha, qui est aujourd'hui l'Éthiopie, Djibouti, toute cette partie-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné autorisation, même un ordre de quitter la Mecque pour aller vivre leur religion. Il leur a dit quelque chose, il leur a dit partez là-bas parce qu'il y a un roi juste chez qui vous pouvez pratiquer votre religion. Ils sont tous partis. Et Ja'far est resté depuis cette période-là jusqu'à la 7e année, Fathu Khaybar. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Khaybar et voit, quelques jours après, Ja'far arriver avec sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envie de voir Ja'far, c'est son cousin direct. Ja'far, c'est le frère de Ali ibn Abi Talib. C'est Ja'far ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, donc c'était son cousin. Et le prophète aimait énormément Ja'far. Et Ja'far a fait un travail extraordinaire, parce qu'il a réussi, avec les autres compagnons, à maintenir la foi des musulmans. C'était une poignée de musulmans dans une société non musulmane, chrétienne, fervente, et malgré tout les musulmans sont restés unis et tous musulmans. Et en plus de ça, il a réussi à influencer même le roi de l'Abyssinie, parce qu'à chaque fois il est invité pour lui parler, ben le roi de l'Abyssinie est devenu musulman grâce aux efforts de Ja'far ibn Abi Talib et ce qu'il faisait toujours avec lui, les discussions qu'il avait souvent avec lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cette bataille, il reçoit Ja'far, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il dit une parole, il dit « La adri bi ayyihima afrah, abi fathi khaybar, am bi qudumi Ja'far. » La adri bi ayyihima afrah, abi fathi khaybar, am bi qudumi Ja'far. » Je ne sais pas quel est l'événement le plus heureux qui me rend encore plus joyeux. Est-ce que c'est Fathu Khayba, est-ce que c'est la conquête de Khayba ou l'arrivée de Ja'far? Khayba, Ja'far, ça arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très content. Il compare l'arrivée de Ja'far à une grande conquête. Parce que Ja'far, il y avait une place très importante dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Abu Moussa, balaghana, Abu Moussa fait partie de ces gens-là. بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. Donc les musulmans, quand ils ont quitté l'Éthiopie, ils ont traversé la mer, ils sont au Yémen, n'est-ce pas? En face, c'est le Yémen. Donc l'un des musulmans, il raconte cette histoire-là. Il dit: nous avons entendu quand nous étions au Yémen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine pour aller à Khaybar. D'accord. أنا وإخوان لي في بضع وخمسين رجلا من قومي. Donc, فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده. Donc, il y a deux choses. Il y a Ja'far et les musulmans qui étaient en Éthiopie. Mais il y a aussi une tribu qui s'appelle Al-Ash'ariyoun, c'est des Yémanites. Et parmi Al-Ash'ariyoun, vous avez un compagnon que vous connaissez tous parce qu'il rapporte beaucoup de hadiths, c'est Abu Moussa Al-Ash'ari, An Abi Moussa Al-Ash'ari. Abu Moussa Al-Ash'ari, quand est-ce qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était cette année-là. Donc il quitte le Yémen, il prend un bateau et sur le chemin, il passe par l'Éthiopie. Et sur le chemin, il trouve que les musulmans de Ja'far et ses compagnons, qui étaient en Éthiopie, veulent aussi venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont venus ensemble. La tribu Al-Ash'ariyoun et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far et ses amis, sont venus ensemble de l'Éthiopie jusqu'à Khayba. Donc il dit: فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر. Il dit: nous sommes arrivés tous quand le prophète صلى الله عليه وسلم a conquis Khayba. Mais qu'est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait? Il leur a donné aussi des butins de guerre de Khayba. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam auparavant n'a donné d'un butin de guerre pour quelqu'un qui n'a pas participé à la guerre. Hein? La règle, avant même l'islam, c'est que quelqu'un participe à une bataille, il a le droit d'avoir le butin, une part de butin de cette bataille. Mais s'il ne participe pas, il n'a pas le droit. La première fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam change les règles, et les gens qui sont arrivés par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné par rapport à leur immigration, par rapport à leur sacrifice. Et c'est parce que aussi, Khaybar était un gain qui était au-delà de tout ce qu'on peut penser. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais donné de butin que pour la, le bateau de Ja'far et de ses compagnons. Donc, Safiya était, comme je viens de le dire, son mari a été tué. Son mari s'appelait Kinana ibn Abi al-Huqayf. Parce que il a été tué pendant la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné Safiya. Dans un premier temps, Safiya était destinée à un compagnon qui s'appelait Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, je vous ai raconté son histoire. Dihya al-Kalbi, c'est l'homme le plus beau de midi. Et quand Jibril descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il prend l'apparence de Dihya al-Kalbi. Et Dihya, c'est aussi l'homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à un roi, le roi de l'Égypte à l'époque, pour avec la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au début, Safiya devait être la femme de Dihya. Mais un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ya Rasulallah, cette femme ne doit pas être la femme de quelqu'un d'autre que toi. Pourquoi?
Son père, c'est un chef de...
Voilà, exactement. Son chef, donc il va dire... Donc ça doit être un juif converti à l'islam qui connaissait très bien, comme je vous ai dit, il y a énormément de juifs de Médine qui sont devenus musulmans. Cette femme n'est pas n'importe quelle femme, là, Rasulallah. C'est Sayyidatu Bani Qurayza, c'est la femme la plus honorable de Bani Qurayza. Regarde, c'est une grande tribu. La tasluhu illa lak. Il ne sait que cette femme se marie avec quelqu'un d'autre que toi, ya Rasulallah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Dihya, et Dihya a accepté volontiers. Donc il a pris une autre épouse et a accepté que sa fille devienne la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a proposé l'islam. Avant même de se marier avec elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé l'islam. C'est une femme très sage. On va voir à travers le rêve. Et c'est une femme qui a vécu toute sa vie à Médine. Donc c'est un arabophone plus que... C'était médinoise. Les juifs de Médine étaient des médinois. فَاَعْتَقَهَا Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa liberté. Et sa dot, c'était sa liberté. D'accord? Sa dot, c'était sa liberté. Quand elle a demandé une dot, le prophète lui a rien donné parce que sa liberté en soi, c'était une dot pour elle. فَاَعْتَقَهَا وَتَزَوُجَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. Il a fait que le fait qu'elle devienne libre, c'est ça, la dot. Que حَتَّ إِذَا كَانَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle et il est devenu sa femme, sa fille radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il s'est marié avec elle, il voit sur son visage un hématome, quelque chose que... On sait que le prophète a compris, quelqu'un l'a frappé. Cette femme-là, quelqu'un l'a frappé. Il lui demande pourquoi. Qu'est-ce que t'as, pourquoi t'as l'œil de cette manière-là? Elle lui raconte l'histoire. Elle dit: Ra'aytu ya Rasulallah. Ra'aytu qabla qudumi. Juste avant que tu arrives, j'ai vu comme la lune qui s'est déplacée et elle tombe dans mes mains, entre mes mains. La lune tombe entre mes mains. Et wallahi, je n'étais pas du tout au courant que tu es sorti ou que je ne savais rien de toi. D'accord? Faqasistuma ala zawji. Kinana, là, l'homme qui était pervers, son mari. Elle lui raconte cette histoire, qu'elle a vu la lune descendre, bouger, descendre, et elle se met entre ses mains. Dès que je lui ai raconté cette histoire, je ne comprenais rien, absolument rien. Et il me donne un coup sur mon visage et c'est là la trace de son coup. Tu veux épouser, lui il a tout compris. Je ne sais pas pourquoi. Il a compris que ce rêve-là désigne qu'elle deviendra la femme de ce roi. Pour lui, c'est le roi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Médine. Tamannayn. Et c'est pendant cette bataille-là, après cette bataille, qu'une femme juive va inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un repas. Je vous ai déjà raconté cette histoire l'année dernière, donc on va la raconter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est installé à Khaïba, pour quelques jours bien sûr. Zaynab bint al-Harith, c'est la femme de Salam ibn Mushkam, c'est une personnalité juive de cette ville qui a été tuée. Donc elle invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle demande quel est le côté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère de la viande. On lui dit al-katif, l'épaule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime l'épaule plus que il mange. Quand il mange d'un mouton, il mange notamment, il aime la partie l'épaule du mouton. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre un somme dans toutes les parties, mais notamment elle va bien doser des côtés des épaules. Elle va bien doser, elle met du venin très fort. D'accord? Donc elle amène la chatte bien préparée, bien devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence avec tous ses compagnons, il commence à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris juste la première bouchée, il mange la première bouchée et il s'arrête. Alors que certains compagnons ont déjà mangé beaucoup. Ils ont commencé, ils avaient faim, ils ont commencé à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend une bouchée la première. Il mange, il s'arrête, sallallahu alayhi wa sallam. Il la jette. Il jette cette bouchée-là. Il dit Inna hadha al-am. Les os de cet animal me préviennent qu'ils ont été empoisonnés. Les os m'ont informé qu'ils ont été empoisonnés. Même jette, elle est morte, elle est prête, elle est cuite. Et elle informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a été empoisonnée. Thumma da'a. Donc, par contre, certains compagnons ont tellement mangé qu'ils sont tombés tout de suite. Certains parmi eux, il y en a un qui est mort parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres, ils ont mangé un peu, ils ont rejeté tout, donc ils ont eu la vie sauve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé, il a juste. Mais d'après certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Après,
il trouvait à chaque fois, par la suite, il trouvait quelque chose, un mal qui le touche. Il dit ça, c'est les traces ou les restes de ce que j'ai mangé lors. Parce qu'elle avait un venin et quelque chose de très très fort. Pour savoir ça, elle m'a trouvé. Et on dit même que jusqu'à sa mort, il se plaignait, sallallahu alayhi wa sallam, les traces de ce venin. Il appelle, il lui dit qu'est-ce que tu as mis ici? Il y a des gens qui sont morts, elle ne peut pas nier. Il lui dit oui, je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, je sais. Je voulais te tester. Regardez la technique. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je me suis dit, si c'est un prophète, Allah le sauve. Parce que c'est un prophète. Je voulais tester, est-ce que tu étais le vrai prophète ou pas? Donc, je me suis dit, si c'est un prophète, Allah l'informera, il sera sauvé par Allah. Et si c'était un menteur, c'est un menteur de moi. Vous voyez un peu la stratégie qu'elle avait. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien trouvé. Il n'a pas pu la punir. Parce que sa stratégie. Maintenant, vous avez deux versions. Certains savants, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi, ça n'a pas, le venin ne m'a pas touché. Mais vous avez un compagnon qui est mort, quelqu'un qui est mort. Je donne la responsabilité à sa famille. Sa famille décide. Donc, il y a deux versions. Il y a une version, les historiens ne sont pas d'accord, il y a une version qui dit que la famille a exigé qu'elle soit tuée, et cette femme a été tuée parce qu'elle a tué une personne. Et d'autres disent non, la famille a pardonné. Et que cette femme a eu la vie sauve. Wallahu a'lam. قالت إن كنت ملكا استرحت منه وإن كنت نبيا فسيخبر فتجاوز عنه. قبت لي pardon. Donc, par contre, Al-Bara ibn Ma'roub, c'est un compagnon qui a mangé plus et qui est mort. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها. Donc, الروايات, les versions, ne sont pas d'accord. Certaines disent qu'on l'a tué parce qu'elle a tué Al-Bara ibn Ma'roub. D'autres disent qu'on lui a pardonné. Donc, combien de musulmans sont morts pendant cette bataille? 16. 16 hommes ont été tués. 4 muhajirines, 4 muhajirines, et les autres sont des ansars. Donc 12 ansars et 4 muhajirines. Il y a une autre version qui dit qu'ils étaient 18, des musulmans qui sont morts pendant cette bataille. D'accord? Y compris celui qui a été tué en mangeant la viande musulmane, d'accord. Et parmi les juifs de Khaybar, combien de morts? 93. 93 morts pendant cette bataille. Aujourd'hui, il y a une seule bombe, on jette une seule bombe et ça tue 400 personnes. On a toute une bataille pendant 3 semaines. Vous avez combien? 18 martyrs musulmans et 93. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour tuer les gens. Ceux qui ont été tués, ceux qui ont combattu et qui n'ont pas cédé. Tout simplement. Alors que les gens qui n'ont pas combattu les musulmans ne sont pas allés les chercher pour les tuer. L'objectif, ce n'est pas de tuer. Toute une ville qui contient 8 forteresses, 93 hommes qui ont été tués. Aujourd'hui, un seul drone peut tuer je ne sais pas combien de personnes. Alors, regardez, Gaza chaque jour, aujourd'hui, ils sont en train de tuer tous les jours. Plus de 60 000 morts depuis le 7 octobre. 60 000. Vous avez.
60
000 dépasse, bien sûr. Ça, c'est, on va dire, les chiffres officiels.
Dépasse sur les 70
000. Dépasse.
Mmh.
Donc, voilà les chiffres de cette le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu donc à Médine et il a été accueilli par les musulmans. En revenant à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin, les musulmans étaient très fatigués. Une nuit, il dit à Bilal, parce qu'ils ont trop marché, il dit à Bilal, c'est toi le responsable pour nous réveiller. Tu as la responsabilité de nous réveiller. Et Bilal avait l'habitude de se réveiller tout le temps pour le fajr. Subhanallah, Bilal c'est le muazzin. Cette nuit-là, subhanallah, Bilal a dormi, il était tellement fatigué, et les musulmans, toute l'armée musulmane, tous les musulmans, aucun ne s'est réveillé pour salat fajr. Jusqu'à ce que le soleil se lève, ils ont été réveillés par la chaleur. Même Bilal ne s'est pas réveillé, subhanallah. Donc, Bilal, il est mort, il était endormi, il avait la tête sur sa chamelle. Donc, il n'était même pas allongé. Donc, en réalité, c'est Allah qui a voulu que ce soit un cas pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend notre religion et comment on doit rattraper les prières quand le soleil se lève.
Mais cheikh, je fais ma soeur, elle est là. Je suis là, je suis là,
Mmh. Pour les ulama, que disent les ulama, par exemple, quand tu te lèves avant que le soleil se lève, avant, tu as le temps de faire le fajr et après de faire le sobh. Le fajr, dans le langage maghrébin, c'est la prière surérogatoire. Le sobh, c'est la prière obligatoire. Dans le langage syrien, les Palestiniens, les Syriens, les Saoudiens, si tu lui dis le fajr, pour lui, c'est ça l'obligatoire. Donc, vous voyez un peu le. Pour eux, l'obligatoire, c'est salat al-fajr, c'est la prière obligatoire. Et subh, c'est la prière surérogatoire. Nous, c'est le contraire. Donc, nous, quand on dit j'ai fait subh, j'ai fait la prière obligatoire, celle qui est à voix haute. Donc, quand tu te lèves, quand tu viens à la mosquée, par exemple, quand tu viens à la mosquée, ben, tu fais quelle prière avant? Tu fais le fajr d'abord. D'accord? Tu fais la prière sur les rogatoires, deux rak'as, qu'on dit ayyuha al-kafirun, qu'on envoie Allahu ahad, à voix basse. Et tu attends, et quand l'imam se lève, tu fais avec lui as-subh, n'est-ce pas? Imaginons que tu n'as pas fait la prière à la mosquée que tu as fait chez toi. Tu te lèves à salat al-fajr, et tu fais quelle prière la première? La sur les rogatoires ou l'obligatoire?
Sur
les rogatoires, à voix basse. Et après, salam, et après tu te lèves pour faire l'obligatoire. Très bien. Maintenant, imaginons que tu te lèves. Le soleil se lève à 6h50. Je dis ça comme ça. 6h50. Et tu te lèves à 6h40. Tu fais quelle prière en premier?
Obligatoire.
L'obligatoire. Pourquoi tu fais la prière obligatoire? Parce que si tu retardes, tu risques. Si, imagine que tu fais tes ablutions et tu fais la prière surérogatoire et après tu commences, ben, tu risques de que le temps sorte de la prière obligatoire. Donc tu commences par l'obligatoire. Et tu fais tes sbires, tu attends, quand le soleil se lève bien comme il faut, 20 minutes après, tu fais la prière surérogatoire par la suite. Tout simplement. Donc ça c'est ce qu'on doit faire. Si tu te lèves bien avant le fajr, avant le lever du soleil, tu fais toujours dans l'ordre. Maintenant, imaginons que quelqu'un s'est levé à 8h du matin. Et il n'a pas fait comme le cas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, en réalité, tu peux faire l'un ou l'autre. Tu peux faire la prière surérogatoire et la prière obligatoire après, parce que déjà, tu es hors ordre. Tu es en qada. Tu es en train de rattraper une prière. Le temps de cette prière est déjà sorti. Ça y est, tu es en qada. Et ça, c'est uniquement pour la personne qui ne pouvait pas faire la prière. Soit à cause de sommeil, soit à cause de quelque chose de. Elle ne peut pas faire autrement. D'accord? Exactement. C'est pour ça que ça devient une habitude. Exactement. Ça, c'est la première fois et la dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Donc, il dit à Bilal, surveille, et Bilal, donc, il s'est endormi. فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى ضَرَبَتْهُ الشَّمْسِ. Dans la Sira et la Sunna, on a une seule fois dans sa vie, le Prophète ne s'est pas levé pour Salat al-Fajr. Et on a une seule fois, il a retardé Salat al-Asr jusqu'à Salat al-Maghrib, à cause d'une guerre. Pendant la guerre, le Prophète ne pouvait pas. C'était la guerre. Pendant la guerre. La guerre était. Il n'a pas pu faire autrement. Et il a dit. Il a fait une invocation contre ces gens-là, il a dit, ils nous ont empêchés de faire la prière de l'Asr. C'était quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regretté énormément. Donc, حَتَّى ضَرَبَتْهُ الشَّمْسُ وَأَوَّلْ مَنْ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé le premier. ثُمَّ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَتَقَدَّمَ حَتَّى صَلَّى الْفَجْرَ بِالنَّاسِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de cet endroit pour faire la prière dans un autre endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Wakhir Safar, au Rabi' al-Awwal. Donc, pratiquement, cette bataille a duré pratiquement un mois et quelques jours. Après, je voudrais commencer avec vous un événement important, c'est Fathu Makka, parce qu'on ne peut pas, aborder tous les sujets. Et moi, le sujet qui m'importe le plus, c'est Ghazwatu Fathi Makka. Ghazwat Khaybar, c'était important. Maintenant, il y a Ghazwat Mu'ta qui vient après. Et Ghazwatu Fathi Makka. C'est parce qu'il y a énormément de leçons dans cette bataille-là, la conquête de la Mecque. Et j'aimerais bien m'arrêter sur plusieurs sujets sur cette reconquête avant, inchallah, dans les semaines qui nous restent avant les vacances, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, les musulmans ont fait une trêve avec les Mécois. Cette trêve-là devait durer 10 ans, mais en réalité, cette trêve ne durera que 2 ans. Pendant ces 2 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait énormément de réalisations. Il a envoyé des lettres à tous les rois de l'époque. Il a conquis Khaybar. Il a envoyé une armée à Mu'ta. Mu'ta, c'est pour combattre les Romains. C'est la première bataille avec les Romains. Et par la suite, il y a eu la conquête de la Mecque. C'est-à-dire que la conquête de la Mecque, c'est quoi? C'est que les musulmans, maintenant, vont prendre la Mecque et la Mecque va devenir une ville musulmane, complètement. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et ça, c'est Al-Fatih. On appelle ça Al-Fatih. Et Sourate Al-Fatih, Inna fatahna laka fathan mubina, a été révélée, pas pour ce fatih-là, pour la trêve de Sulh al-Hudaybiyya, n'est-ce pas? Maintenant, Fath Makka, on appelle ça Al-Fath Al-A'zam. Alladhi a'azza Allahu bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hizbahu al-amin. C'est grâce à ce Fath Makka, qu'Allah a donné la victoire à son prophète, à ses soldats et aux gens de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce Fath, il a pris la Mecque. La Mecque, c'est la ville sainte, c'est la ville de la foi, la ville de l'islam, c'est la ville de tous les prophètes. On dit que tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont fait le hajj, tous. Le hajj à la Mecque. Allah leur a ordonné de faire le hajj à la Mecque. Et tous les prophètes du monde, à un moment donné de leur vie, sont venus pour faire le hajj. Donc cet endroit-là, c'est l'endroit de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ka'ba, c'est Baytullah, Baytullah al-Haram. Donc, ce n'est pas concevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure sans que cette ville devienne musulmane. Et quand cette ville est devenue musulmane, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait mourir. En réalité, c'était l'achèvement, c'était la victoire, la grande victoire. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préparé petit à petit. Et 2 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort parce qu'il a accompli son devoir, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était très important que les musulmans arrachent cette ville entre les mains des Quraychites et que cette ville devienne musulmane comme avant. Et qu'Allah débarrasse Al-Ka'ba des 360 statues qui l'entourent. Les Arabes de la Mecque ont tellement introduit des choses dans la religion de l'Ibrahim que maintenant le Kaaba, au lieu qu'elle soit le sanctuaire de la foi et de l'unicité d'Allah, elle est devenue le sanctuaire du shirk. 360 idoles à l'intérieur, à côté de la Kaaba. La Kaaba est devenue l'endroit de l'idolâtrie. Et donc c'était le moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ça comme objectif, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toute cette trêve-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réalisé, mais il avait un objectif, c'est que un jour, la Mecque doit devenir musulmane. Allah dit, la uqsimu bihada al-balad, wa anta hillum bihada al-balad, wa walidin wa ma walad. La uqsimu bihada, c'est quel balad? Mecque. Cette sourate est mécoise. La uqsimu bihada al-balad. Je jure par cette cité. Quand Allah jure par un endroit, par un objet, c'est pourquoi? pour lui donner de la valeur, pour lui donner de la valeur. Ou antahillum bihad al-balad, c'est-à-dire Allah jure par cette cité parce que Allah tu es, parce que ya Muhammad tu es dans cette cité. Ou antahillum bihad al-balad. Il y a certains savants ils disent ou antahillum, c'est-à-dire et cette ville va devenir pour toi hil, c'est-à-dire tu peux mener une guerre pour un jour. Alors que la Mecque, c'est un endroit sacré. La Mecque, c'est haram. Baytullahi, al-haram. C'est quoi al-haram? Sacré. Tu ne peux pas. Allah lui dit hil, halal. C'est quoi? Halal, c'est le contraire de haram, n'est-ce pas? Un jour, dans ta vie, Rasulallah, tu auras cette ville autorisée. C'est-à-dire que tu peux porter les armes, mais pour un objectif noble. Un objectif qui va au-delà de porter les armes. Il y a un bait al-harami, qital fihi, qul qital fihi kabir, wa kufr bihi, wa ikhraj ahlihi minhu akbar 'inda Allah. يسألونك عن البيت الحرام قتال فيه. On t'interroge concernant mener une guerre au sein du Beit al-Haram, قتال فيه. قل قتال فيه كبير. Mener une guerre au sein du Beit al-Haram كبير. كبير, كبير c'est-à-dire énorme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et après Allah dit وإخراج أهله منه وكفر به وإخراج أهله منهم أكبر عند الله. Oui, la guerre dans la maison sainte, c'est kabir. Mais il y a quelque chose qui est encore plus grave que ça, c'est d'adorer un autre qu'Allah au sein de cette même mosquée consacrée à l'unicité. Et le fait de sortir les gens qui croient de cet endroit pour les expulser ailleurs, akbar inda Allah. Oui, il y a quelque chose qui est kabir, mais il y a quelque chose qui est akbar. Hein? Non. Le Prophète Mohammed, pourquoi ça ressemble? Un jour, il regarde la Kaaba, il dit Wallahi, innaki inda Allah al-azim. Il parle à la Kaaba, il lui dit pour Allah, tu es pour Allah un sanctuaire, quelque chose d'énorme, sacré. Mais la sacralité d'un croyant, elle est plus importante qu'à ta propre sacralité. Voyez comment. Donc, ici, à partir du moment, et c'est pour ça que Fath al-Makkah, j'aimerais bien insister, ça va prendre 2 ou 3 séances, Inch'Allah, jusqu'à la dernière, avant le 16, Inch'Allah. Parce que Fath al-Makkah, c'est vraiment un acte très très important. À partir de Fath al-Makkah, qu'est-ce qui se passe? Ben, tous les Arabes de l'Arabie, ils ont dit, mais c'est bon, il a gagné contre les Mécois. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillah. Salam alaykum. Vous voyez un peu le...
20 secondes. 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 20 secondes.